Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, vous savez que quand il sonne 11h sur votre radio, le rendez-vous est pris sur la 93.5. Bienvenue. Lomé, la capitale togolaise, abrite cette semaine la conférence de l'Union africaine UA sur la dette. La conférence, justement l'événement placé sous le thème de l'agenda africain de gestion de la dette publique, réunira en dehors des leaders du continent et invités de marque des personnalités et institutions du monde économique et financier. L'objectif est de poser les bases d'une gouvernance responsable et souveraine de la dette en Afrique. À Lomé, les travaux devront ainsi permettre de mener une réflexion concertée sur les réformes nécessaires et de plancher sur des mécanismes innovants de financement. Les assises devraient en outre déboucher sur l'adoption d'une position africaine commune matérialisée par une déclaration. Nous aborderons le sujet et bien d'autres lié à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la presse de ce lundi 12 mai 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega sur la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous avez le privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. Lundi, l'équipe de lundi se met déjà en place. Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci à nos auditeurs, merci aux auditrices, tous ceux qui nous écoutent actuellement sûrement dans leur bureau, ceux qui sont dans les taxis, ceux qui sont certainement également sur les lits des hôpitaux qui nous écoutent actuellement. Je voudrais souhaiter une prompte guérison aux uns et aux autres. Il est vrai que, Pascal, partout aujourd'hui à Lomé, on vous dira que la vie est un peu difficile. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage à tout un chacun d'entre nous. Parlant de l'argent aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas du tout facile pour tout le monde. Mais le plus important pour nous, ce que je voulais souhaiter à chacun, que Dieu nous garde, que Dieu permette à ce que nous soyons en bonne santé. C'est ça. S'il faut que nous soyons encore malades, Pascal, et que on n'ait pas également l'argent, ça va créer encore d'autres choses.
Tout à fait.
Je voudrais souhaiter que Dieu nous accorde quand même sa santé, que Dieu nous accorde sa grâce. C'est le plus important. Je voulais évoquer un fait de société avant de m'arrêter, Pascal.
Oui.
Je voudrais inviter nos chers compatriotes, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement dans notre capitale, et surtout au Togo, nous donne à réfléchir. Le constat aujourd'hui, c'est que les gens se marient, mais séparément. C'est-à-dire que vous allez voir un couple aujourd'hui, à la mairie, ils sont mariés, à l'église, ils sont mariés, mais l'homme vit seul, la femme également vit seule. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble. Quand l'homme a besoin de la femme...
Là, souvent, on parle de vivre séparément ensemble.
Oui, mais c'est quand même compliqué, Pascal. Pour ceux qui pratiquent cela, vraiment, il faut... Je ne sais pas comment faire pour régulariser ou bien régler cette situation. C'est quand l'homme a besoin de la femme qu'il appelle la femme vient. Quand l'homme a besoin de voir son enfant, la femme amène l'enfant. Et puis, quand il voit l'enfant, après, il se sépare. Et puis... On dit que chacun vit chez lui à la maison. Je crois que je ne sais pas quel est ce phénomène encore qui est en train de se développer dans notre pays, où on se marie ensemble, mais on n'est pas ensemble. Je crois que ça risque encore de créer encore d'autres problèmes dans notre pays, parce que le constat, c'est que, vous allez voir, Pascal, le fait que la femme vive seule, l'homme vive seul également, ça risque également de créer des cris d'infidélité entre l'homme et la femme. Donc, je crois que c'est des situations, quand même, il faut inviter les uns et les autres à pouvoir corriger, parce que, Pascal, tu es chrétien, et mon ami personnel également est chrétien, je crois que ce qui est dit, c'est que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On n'a pas dit que l'homme quitte son père et sa mère, et lorsqu'ils sont ensemble, qu'ils se détachent. Donc je crois que c'est un phénomène quand même qu'il faut combattre. Il faut vraiment voir ce qui se passe réellement. Pourquoi on se marie? La femme vit ailleurs, l'homme aussi également vit ailleurs. Je crois que c'est des situations quand même qu'il faut voir et vraiment corriger. Comme je l'ai dit, ça risque encore de créer des tensions, d'infidélité entre l'homme et la femme. Et l'homme risque encore de sortir avec beaucoup de copines. Et ça va créer encore des crises au sein des familles.
D'accord. Et merci pour cette interpellation, Jacques. Gosson Ketobanya, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà
nous
le temps.
Voilà. Grâce à Dieu. Et profitant de l'occasion pour dire bonjour aux auditeurs, auditrices. Et surtout aux lecteurs du journal Liberté.
Vous avez bien passé le week-end?
Moi, oui. Mais il n'en est pas de même pour certains citoyens qui sont en relation de commerce avec la plateforme industrielle d'Adeticopé. Il y a une situation qui peut causer ou cause parfois des accidents sur la nationale numéro 1. Normalement, à l'intérieur de PIA, il y a un parking très bien aménagé pour que les groupes porteurs y stationnent. Mais quand vous roulez sur la nationale, vous constatez que beaucoup de groupes porteurs sortent de l'enceinte de PIA pour se garer au bord de la route. C'est une file indienne qui ne dit pas son nom, mais il y a tellement de titans. Parfois, c'est de part et d'autre de la voie. Et quand il fait un peu sombre et que les lampadaires ne sont pas allumés, vous risquez tout de suite de ramasser quelqu'un ou alors de rentrer sous un titan. Quand nous avons cherché à comprendre pourquoi cette situation, on nous a juste fait comprendre que c'est le fait du coût prohibitif des frais de stationnement à l'intérieur de PIA. J'étais surpris que cette structure qui veut désengorger, qui veut faire des opérations dans le pays, pratique des tarifs qui obligent ou qui contraignent les camionneurs à préférer garer leur véhicule le long de la nationale numéro 1. Chercher à les dégager de là ne serait pas une solution, mais chercher plutôt à voir les responsables de PIA pourquoi ils en sont arrivés à ce stade. Parce que parallèlement aux camionneurs, il y a aussi des cantines qui étaient aménagées pour des bonnes femmes pour venir vendre à l'intérieur du pays et de l'entreprise. Mais on nous a appris que le coût de location de ces cantines a découragé beaucoup de bonnes femmes. Ce qui fait que les employés sont obligés de sortir pour manger dehors. Donc, c'est un appel qu'on lance aux initiateurs de ce projet qui fassent en sorte que les camions rentrent pour aller garer dans le parking, mais à des coûts qui ne les décourage pas.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Ketobanya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, je le disais dans mes mots introductifs, que Lomé, la capitale togolaise, abrite cette semaine, et c'est à partir d'aujourd'hui même d'ailleurs, le 12 mai, la conférence de l'Union africaine sur la dette. Alors, quand on prend aujourd'hui une conférence de l'Union africaine sur la dette publique, là, on en a besoin.
Oui, bon, j'ai suivi, quand je venais, j'ai un peu suivi la cérémonie d'ouverture où le PC du Togo est en train de donner son discours. Il parlait de 5 directives pour relever le choc de cette dette. Il faut reconnaître également que c'est vraiment un phénomène un peu difficile, dur pour les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, Pascal, le vrai problème, c'est que n'y a pas une coordination au niveau, effectivement, d'abord de l'entrée des fonds et la gestion également des fonds aujourd'hui collectés dans les États. Bon, hormis certains États, il faut reconnaître quand même qu'il y a une structure qui gère bien les entrées et les sorties de cet argent. Et l'autre aspect, il faut reconnaître également qu'il y a également des chocs aujourd'hui qu'on n'y pensait pas avant. Prenons par exemple le phénomène du terrorisme, aujourd'hui qui crée également un ralentissement au niveau effectivement du développement de certains pays, parce qu'il faut reconnaître que là où il y a effectivement ces djihadistes qui créent un peu de problèmes, comme on le dit souvent, Pascal, que l'argent n'aime pas trop de bruit. Là où il y a le bruit, vous ne pouvez pas avoir des investisseurs pour venir investir pour que le capital soit élevé dans certains États. Donc je crois que l'autre aspect, c'est la malgouvernance, il faut le dire également. Et l'autre aspect également, c'est la corruption. Parce que s'il n'y a pas effectivement un schéma clair par rapport à l'argent qui rentre et à l'argent qui sort et comment c'est dépensé, Pascal, il faut souffrir à ce qu'on puisse effectivement avoir également ces dettes très élevées dans les pays que nous constatons. Et l'autre aspect également, c'est le taux souvent élevé de ces monnaies que nous avons. Quand vous prenez par exemple l'euro et le dollar qui ne riment pas avec par exemple notre CFA que nous utilisons ici, il faut reconnaître que quand même nous puissions avoir également ces chocs-là. Et comment faire pour relever effectivement cette dette au niveau de l'Union africaine? C'est à ça que les experts vont se pencher cette semaine. Le plus important, c'est que, Pascal, il est bien vrai de permettre à ce qu'on puisse s'endetter. L'autre aspect, de permettre effectivement à ces États-là de pouvoir rembourser ces dettes et à quelle échéance et à quel taux pour pouvoir aider effectivement ces pays-là qui sont en train effectivement de faire ces prêts-là pour développer leur pays.
D'accord. Mais Gosson, est-ce que vous avez l'impression que nos dettes publiques nous profitent?
Tu as posé une question directe à laquelle je vais te répondre directement.
Oui.
Le Togo ou le continent africain ne sont pas les seules zones où on contracte des dettes. Ailleurs, quand on prend l'Italie, la France, les États-Unis et autres, ce n'est pas un taux de 70% de l'endettement par rapport au PIB qui est respecté là-bas. Mais parfois, la dette dépasse le PIB du pays. Et pourtant, on ne s'en préoccupe pas. Simplement parce que ce qui a été constaté comme dette est utilisé à bon escient et les citoyens en voient les effets. Ici, quand je considère le Togo comme le niveau micro, l'Afrique comme le niveau macro, le Togo a un ministère de l'économie et des finances. Mais
tout comme les autres pays, hein?
Pas toujours. Pourquoi pas ne pas initier un ministère de l'économie et du plan et un autre dédié au budget et aux finances? C'est des réflexions. Parce que il ne suffit pas de confectionner un budget et de l'exécuter. Non. Économiquement, on doit savoir où est-ce que le pays va. Ça n'existe pas. Il serait temps, je le répète, que si on doit former un prochain gouvernement, qu'on y réfléchisse. Jacques a parlé tout à l'heure de taux d'intérêt. Parlons-en. Chaque fois qu'on confectionne le budget, les budgets, la course au marché sur les marchés financiers prend une bonne place pour qu'on arrive à boucler un tant soit peu notre budget. Et malheureusement, il y a de ces confrères qui se réjouissent du fait que le Togo se porte financièrement bien, parce que quand il va sur les marchés financiers, parfois les propositions dépassent ses attentes.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi un symbole du fait que économiquement ça marche?
Non. Personnellement, je dis non. En ce sens que quand les investisseurs voient que le risque d'endettement de ce pays est élevé et pourtant le pays va sur le marché financier, le taux d'intérêt pratiqué est un peu plus élevé. Mais si malgré ça, le pays accepte prendre ses prêts, en quoi est-ce que c'est bon financièrement pour notre économie? Il faut prendre le temps de comprendre la situation avant de vouloir s'y engager. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je veux revenir un peu en arrière. On parle de... Le thème dont tu parles, c'est... J'aurais aimé que le thème soit plus sincère. Par exemple...
Toi, vous pensez que c'est pas sincère?
Non, c'est pas sincère. Que fait-on des endettements? Puisque, rappelez-vous, il y a eu l'initiative IPPTE, au cours de laquelle, on a eu à effacer les dettes de certains, sinon beaucoup de pays africains. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a pris les mêmes et on a recommencé. Finalement, pour dire quoi? Si au moins l'aggravation de cette dette se ressentait dans les infrastructures, dans le niveau de vie des citoyens, on ferait motus et bouche cousue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun se demande où est-ce qu'on va. Moi, je me pose la question, pourquoi c'est le Togo qui abrite cet événement? J'y ai à moitié trouvé la réponse en me disant, puisque l'UA nous a désigné comme facilitateur entre la RDC et le Rwanda, peut-être, je dis bien peut-être, que nous avons souhaité abriter cet événement. C'est vrai, ça va être un plus pour les hôtels. Si, tant est que ce sont les visiteurs même qui vont prendre leurs dépenses en charge. Autrement, il y a beaucoup d'autres pays qui ont tellement d'infrastructures pour abriter cet événement. Mais c'est au Togo, on prend acte.
D'accord. Voilà. C'est au Togo, on prend acte. Pour votre question que vous venez alors de poser, à savoir pourquoi c'est le Togo qui accueille alors cette rencontre, je pense que le journal Togo Matin vous a devancé même d'ailleurs, où le journal se posait aussi également la question finance. Pourquoi le Togo accueille le sommet de l'UA sur la dette publique? Et je pense que le journal a donné la réponse dans cet article. Didier Sobat, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien par la grâce de Dieu.
D'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi le Togo accueille alors cette rencontre sur la dette publique?
Sur le fond, il va être difficile de dire pourquoi c'est le Togo. Pourquoi fondamentalement c'est le Togo sur le sujet de la dette. Ça va être compliqué de dire que moi, en tant que Didier Sobat, un inconnu dans la République, que je détiens les raisons et la réponse. Mais de façon générique, et ce que nous savons tous, nous savons que Lomé est une place de conférence. C'est ce que les autorités ont voulu. Lomé est devenu un centre de conférence, une place de conférence où on abrite des sommes et des conférences et on a quelques infrastructures donc qui nous permettent d'habiter ce genre de rencontres. Et donc, pour organiser ce genre de rencontres, il faut également en être des fois pas demandeur, je dirais pas demandeur, c'est un terme cher à Gorson, mais il faut peut-être vouloir abriter un certain nombre de.
Mais il faut des conditions aussi à remplir.
Oui, mais bon, les conditions, par exemple, je pense qu'on a l'hôtel de février pour accueillir les hôtes de marque. Après, on a d'autres infrastructures pour accueillir un certain nombre de personnes. Donc, on a déjà abrité le sommet sur la sécurité maritime où il y avait une panoplie de chefs d'État. Sinon, plus d'une vingtaine étaient à Lomé à l'époque. On n'a pas eu problème d'infrastructures. Donc, Lomé abrite beaucoup de rencontres, de conférences depuis toujours d'ailleurs. Et donc, sur ce coup-là, les organisateurs... sous l'égide de l'Union africaine, on peut-être voulu que ça soit également le Togo. On a sollicité l'avis des autorités togolaises qui ont accepté d'abriter cette rencontre. Je crois que c'est l'explication qu'il peut y avoir.
D'accord. Jacques, finalement, quand on prend cette question alors de dette, parce qu'aujourd'hui, quand c'est Lomé qui accueille, ça veut dire que alors le Togo a une place très importante et sur cette plateforme, les uns et les autres veulent s'exprimer, bien sûr, sur le sujet.
Oui, justement, j'ai vu un peu la panoplie des invités qui étaient dans la salle. On sait que c'est des commis qui connaissent un peu ce que c'est que l'économie. Et j'ai vu les ministres des Finances, les experts qui étaient là également. Mais Pascal, vous savez, hormis les tables rondes, hormis les discussions qui auront lieu dans cette salle, c'est comment effectivement recadrer, comment maîtriser cette dette-là. C'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, quand vous voyez un peu, vous prenez la situation de notre pays, moi je voulais parler plutôt du Togo, vous voyez tout le temps, on dit que le Togo lève 22 milliards, le Togo lève 20 milliards, le Togo lève 19 milliards, vous posez des questions, et comment cela se fait? Et comment cela se maîtrise au niveau, effectivement, des dépenses lorsque le Togo engrange, par exemple, ces sommes-là sur, sur le marché. Donc, vous voyez, donc le problème, c'est que nous, en tant que citoyens lambda, on veut quand même comprendre comment ça se passe, hein, comment l'État arrive, effectivement, à gérer ces sommes, parce que quand on parle de milliards, Pascal, c'est beaucoup d'argent. Et dans quel domaine cet argent-là est souvent, dans quel domaine l'argent là est destiné? Est-ce que c'est les infrastructures? Quand on, par exemple, on prend nos routes, on prend par exemple l'eau, on prend par exemple l'électricité, vous savez quand même que c'est des domaines où l'État doit encore plus faire. Mais tout en quand on voit par exemple la mobilisation de ces fonds sur le marché public, on se dit, mais donc le Togo est un bon pays, parce que c'est pas facile aujourd'hui, Pascal, de prêter de l'argent. Mais si le Togo a cette ouverture de lever tout le temps ces fonds là sur le marché, et on ne sait pas également à quel taux, ça c'est le vrai problème également, se situe à ce niveau, à quel taux effectivement ces prêts là sont octroyés au Togo, et quelle est la part effectivement de l'État par rapport au remboursement, parce que le constat c'est que presque, parce que je me trompe, presque chaque mois le Togo lève toujours des fonds, parce que je crois la semaine passée le Togo en a encore fait, je crois que l'autre mois également ils avaient fait. Bon, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que, comme on le dit, c'est vrai que est-ce que c'est parce que le Togo rembourse bien ses dettes et tout en octroie ses prêts-là au Togo, lorsque le Togo mobilise par exemple ces fonds-là sur le marché, à quoi est destiné effectivement ces fonds? Donc, c'est des choses quand même qu'il faut voir, parce que il faut reconnaître que quand on parle de la dette publique, Pascal, vous avez souvent le vertige. Vous posez des questions avec cette dette-là, comment le Togo peut arriver à rembourser ses dettes et que tout temps, le Togo puisse encore lever des fonds sur le marché.
Ce donc, qui dit que c'est des dettes sur des dettes, bien sûr.
Oui, mais c'est ça le constat, à moins que je me trompe. Parce que tout le temps, c'est une levée de fonds. Et quand on parle de levée de fonds, c'est-à-dire que c'est des dettes. Et c'est des dettes que vous allez rembourser. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir, je ne sais pas à quel taux le Togo lève souvent ces fonds-là sur le marché.
D'accord. Oui, Gosson, la question est de savoir aujourd'hui quel est l'impact même d'ailleurs de ces fonds sur l'économie du pays.
Ben, je donne juste un petit exemple. Quand le Togo lève 20 milliards pour un taux d'intérêt de 6,5% et dont la maturité est de 6 mois, 180 jours, disons, le taux d'intérêt, les 6,5%, vont générer 1 milliard 300 millions que le Togo paiera en plus des 20 milliards à l'échange de ce prêt. Pascal, dis-moi, concrètement, quand on prend cet intérêt-là, 1 milliard 300 millions, tu peux imaginer le nombre de centres de santé ou de salles de classe que le pays peut implanter. La question de la dette, personnellement, tient du fait que nous avons des matières premières que nous ne transformons pas sur place. On les vend moins cher et après transformation, on nous les renvoie pour nous les revendre plus cher. Finalement, la dette s'apparente à un mythe de Sisyphe. Ça ne fera que se cumuler. Ça ne va jamais baisser. Et quand c'est ainsi, je me demande à quoi sert cette rencontre, à quoi va servir une déclaration de serait-ce pour décider que les matières premières soient transformées sur place ou alors pour faire comme lors du sommet sur la sécurité.
Mais je pense qu'il y aura des recommandations et avec ces recommandations, il y aura la déclaration de l'ONU.
On connaît avec quelle application on met en œuvre les recommandations issues des sommets. Donc sur ce plan, je prie pour que le coq ne pousse pas des dents avant qu'on ne mette en pratique ces recommandations-là.
D'accord. Mais Didier, est-ce que vous avez aussi l'impression que économiquement, on ne sait pas où se dirige le pays avec ses dettes surtout?
Oui, mais pourquoi nous endettons-nous? Cette question-là, tout le monde peut se la poser, et tous les Togolais, sinon si vous voulez, tous les Africains peuvent se la poser. Pourquoi nous endettons-nous? Et pourquoi nous endettons-nous autant? Parce que en fin de la journée, à la fin du mois, vous tournez le regard, vous voyez moins ce à quoi sert la dette. Vous voyez véritablement moins ce qu'on fait de la dette. Vous voyez sur des infrastructures, par exemple, Gosson, il maîtrise mieux le dossier que moi. On prenait la route Lomé-Vougan en foin. C'était une route qui était partie pour être construite sur une dette. Mais finalement, sur combien de dettes a-t-on réalisé cette voie et au prix de réaménagement, finalement, ça n'a pas été la maquette initiale qui a été réalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la dette qu'on a à payer pour cette route-là, la route n'était pas celle qui était prévue au départ. Et aujourd'hui, vous voyez le nombre d'accidents. Il paraît la semaine dernière, il y a eu encore un décès entre je sais pas Kégué et Diaglé parce que du fait de l'exécuter de cette route là. Bon, les dettes des pays africains, et vous les cherchez même des fois, vous ne trouvez pas, et vous voyez des fois des dirigeants, je vais pas utiliser des mots qui sont forts, mais des dirigeants qui se débrouillent pour cacher même des fois des dettes. On a vu l'exemple
du Sénégal
il y a quelques semaines seulement, pour cacher les dettes, alors que les dettes avaient été contractées pour, ma foi, le développement du pays.
Et c'est vrai, sur la question alors du Sénégal, il y a le FMI bien sûr qui a confirmé alors tout, mais après tout on se pose la question de savoir où était le FMI quand tout cela se passait.
Non, mais le FMI, qu'est-ce que vous voulez que le FMI fasse? Le FMI c'est une banque.
Il n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures.
Mais tant qu'une banque prête à un pays et que vous utilisez mal, le FMI est sûr de recouvrer ses fonds de toute façon. Tant que le Sénégal existera, le FMI va rentrer dans ses fonds. Donc le FMI s'en tape réellement de ce que vous avez fait, de la dette ou vous n'avez pas fait de la dette. C'est la même chose aujourd'hui pour les individus qui sont plutôt prompts à prêter aux États. Lorsque les États viennent sur le marché financier régional, c'est la même logique pour les investisseurs, les hommes d'affaires qui ont de l'argent aujourd'hui, les entreprises qui ont de l'argent aujourd'hui à injecter, les opérateurs économiques, c'est la même dynamique. Si toi et moi, on cherche des prêts, personne ne nous donnera de l'argent. Mais il suffit que le Niger, malgré les difficultés sécuritaires dans le pays, même le Burkina Faso, le Mali, se pointent sur le marché financier régional, mais tous les investisseurs vont aller acheter, prêter de l'argent parce qu'ils sont sûrs que même s'ils sont pas rentrés, ils rentrent pas dans leurs fonds avec les présidents actuels, tant que les pays-là vont exister, ils auront gain de cause. C'est la même chose pour le Togo, c'est la même chose pour le Bénin, c'est le même principe un peu partout. Donc à partir de ce moment-là, s'endetter, en fait, économiquement, on sait que s'endetter n'est pas le problème. Les banquiers expliquent mieux la situation. Vous voulez une chose ici et maintenant, vous pouvez prêter de l'argent pour faire. Mais si vous voulez une chose et que vous vous donnez du temps, dans 2 ans, dans 3 ans, on va pouvoir réaliser, vous allez épargner pour y arriver. Donc, la dette, c'est une autre forme d'épargne. Mais sauf que vous allez rembourser après avec, comme Gosson le dit, avec des taux d'intérêt. Donc, aujourd'hui, la grande question est sur laquelle devrait se pencher cette conférence et nous, Africains, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons de la dette? Est-ce que nous nous endettons sur de bons motifs pour le développement de nos pays? Est-ce que, in fine, la dette nous a aidés à nous développer? Parce que, quelles que soient les résolutions qu'on va prendre, quelle que soit la déclaration qu'on va écrire à Lomé, quelles que soient les recommandations qu'on va faire à la fin de cette conférence, nous irons prêter de l'argent chez le FMI, chez la Banque mondiale, c'est tout ça, mais c'est leur argent à eux. Donc, ils en font ce qu'ils veulent, ils posent leurs conditions qu'ils veulent. Donc, si nous voulons, la balle est en fait finalement dans notre camp. Nous sommes allés prendre les prêts en toute connaissance de cause, mais est-ce que nous nous sommes servis de ces prêts-là pour véritablement, comme il le dit, construire les salles de casse, construire des forages, cher à mon aîné Jacques Diakouti, mettre les, enfin, étendre le réseau électrique un peu partout et dynamiser notre pays, développer le pays, construire des routes. Est-ce que véritablement les fonds que nous empruntons nous ont permis véritablement de faire ça? C'est la question que je posais. On peut dire oui, certains diront oui, mais la grande majorité vont dire oui, ça n'a pas servi à faire. Mais le constat, c'est que le pays sont toujours à la traîne malgré le taux d'endettement élevé. Et aujourd'hui, on voit que le développement est à la traîne dans nos pays parce que les dettes ne sont pas finalement bien gérées ou surtout peut-être ne sont pas n'ont pas été utilisées à des fins pour lesquelles elles avaient été prises.
Jacques, est-ce qu'on pourra dire que c'est une rencontre de plus, la rencontre de Lomé? C'est vrai que il est dit qu'à Lomé, hein, les travaux devront ainsi permettre de mener une réflexion concertée sur les réformes nécessaires et de plancher sur des mécanismes innovants de financement. Est-ce que ce ne sont pas des gros mots qui finalement n'ont rien à voir avec le quotidien du Togolais?
Je suis d'accord avec vous, Pascal. Et quand on parle, par exemple, et si vous voulez emprunter, par exemple, l'argent, il faut une garantie. Il faut une garantie avant qu'on nous prête de l'argent. C'est la même chose avec les États. Il y a des garanties qu'on donne. Didier disait tout à l'heure qu'on peut prêter, par exemple, au Niger, on peut prêter, par exemple, au Burkina, avec les pays qui sont actuellement en guerre. Il est vrai. Mais il faut aller voir ce qu'ils mettent sous ces prêts-là avant qu'ils ne prennent de l'argent. Vous savez qu'il y a des mines d'or, il y a beaucoup de choses qu'ils mettent en valeur pour pouvoir prendre de l'argent. Donc c'est pour vous dire que quelque part, on ne prête qu'aux riches, hein, ça il faut qu'on soit clair. On ne peut jamais prêter à un pauvre, parce qu'on sait que le pauvre ne peut pas rembourser. Donc aujourd'hui, pour prêter, c'est les riches qui se font les prêts. Le pauvre, on ne le donne seulement que des miettes, parce qu'on sait que à la fin de l'année, quand on va faire le bilan, on pourra passer ça comme profit. Donc pour les riches, on sait comment leur prêter de l'argent. Quand vous prenez par exemple le cas de notre pays, le Togo, que nous maîtrisons très bien, vous savez que pour cette année seulement 2025, quand vous prenez par exemple la loi sur les finances, le Togo prévoit faire un prêt de plus de 332 milliards pour 2025. Il faut aller voir, ça c'est la dette extérieure. Comment est la dette intérieure? C'est ça également, parce que une chose est de faire, par exemple, un prêt à l'international, une autre est de payer également les dettes intérieures. Parce que si vous voyez aujourd'hui, la plupart de ces sociétés, la plupart de ces entreprises que nous avons au Togo aujourd'hui qui sont asphyxiées, c'est parce que quelque part, on n'arrive pas à rembourser leurs dettes. Parce que les gens ont fait souvent les travaux, ce qu'on appelle le préfinancement. C'est-à-dire qu'ils cherchent l'argent, ils font le travail, l'État doit rembourser. Mais l'État n'arrive pas à rembourser ce prêt-là à temps. Et ça crée des problèmes aujourd'hui à ces sociétés que nous avons dans notre pays, qui finalement sont obligées de fermer parce qu'ils n'arrivent pas à honorer le personnel. Il y a également l'auteur qui est derrière eux et tout ça, si bien que ces entreprises la ferment. Moi, je crois qu'une chose est de s'en dater, une chose est de demander aux sociétés de préfinancer aujourd'hui ce que nous avons, mais une autre chose est à ce que l'État puisse payer également d'abord sa dette à l'international, payer également sa dette intérieure. Donc aujourd'hui, cette rencontre, c'est une bonne rencontre, mais cette rencontre-là devait permettre quand même aux États de pouvoir effectivement avoir une vision claire. Nous ne parlons pas seulement de l'Afrique, hein, c'est à l'international. Quand on parle de l'Union africaine, que c'est l'Union africaine qui a organisé cette rencontre, Pascal, on sait comment les prêts se font. On sait également à qui prêter et on sait qui prête de l'argent. Parce que ce n'est pas toi qui prêtes de l'argent. Et on sait et quelles sont les firmes, quelles sont les puissances qui sont derrière effectivement ces prêts et quelles sont les conditions que ces États-là, ces puissances-là posent à ces pays-là pour pouvoir effectivement leur faire un prêt. Quand on me dit par exemple que le chef de l'Union africaine a été conçu par la Chine, Mais vous voyez que quelque part, mais on ne peut pas s'asseoir en tant qu'Union africaine, parler d'une dette que vous ne maîtrisez pas. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que
ouais, je comprends.
L'argent que vous ne mettez pas, c'est les gens qui mettent cet argent, qui construisent par exemple vos infrastructures, et vous vous asseyez pour parler de cette dette. Mais vous voyez qu'il y a une contradiction quand même, quelque part, lorsqu'on parle effectivement de l'Afrique et de parler effectivement de la dette. Donc je crois qu'il y a d'abord une maîtrise de la dette intérieure, une maîtrise également de la dette extérieure effectivement qu'il faut voir.
D'accord. Oui, Gosson, oui, c'est vrai que je voudrais qu'on quitte le sujet, mais je pense que vous voulez placer un mot.
Effectivement, derrière tout État se trouvent des hommes. Parce que quand on contacte une dette, un prêt, c'est utilisé, c'est géré par des hommes. Mais il faut bien quand même qu'à un certain moment, on demande que ceux qui ont eu à user de ces fonds rendent compte. Je vais parler de la reddition des comptes. Prenons par exemple ce qui s'est passé au Ghana récemment, avec le nouveau président, qui a eu à couper 3 mois de salaire aux ministres qui ne se sont pas exécutés dans la déclaration de patrimoine. Un vœu qui était consacré par notre constitution, qu'on a mis de côté, mais qu'on ne retrouve plus dans la nouvelle constitution. Tant que on ne peut pas demander des comptes aux gens, aux personnes qui sont aux affaires, la dette ira crescendo. Pour rappel, quand on construit le budget 2025, ce n'est pas moi qui le dis, mais quand vous assemblez les chiffres, le Togo doit, en termes de capital et de service de la dette, c'est-à-dire intérêt, 877 milliards, rien que pour 2025.
877 milliards
de remboursement de la dette, c'est beaucoup. C'est énorme. À cette allure, que deviendrait alors le budget dont on se glorifie, qu'on a dépassé les 2 milliards, si on doit prélever rien que ce montant-là pour payer la dette?
Je m'arrête là. Oh, mais, non, je reste toujours avec toi, Gossan, on va quitter le sujet. Mais
parce qu'il faut qu'ils comprennent que il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer
sans la dette.
Sans la dette.
Bien sûr.
C'est pas ce qu'on comprend, Pascal.
De ce qu'on l'a utilisé. Comment on l'a utilisé?
Il n'y a pas ce pays aujourd'hui où vous prenez les États-Unis, partout, la France. Les gens vivent de dettes. Pascal, toi qui es assis là-bas, sûrement que tu as contracté peut-être une dette à la FISEC ou bien à la COPEC que tu es en train de payer. Mm. Mais ça, c'est ça. Mais ce que je suis d'accord avec lui, c'est quand on vous donne de l'argent, comment gérer votre argent? C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous voyons la fougue de la jeunesse aujourd'hui. Vous savez qu'entre-temps, il était question d'ouvrir le marché, par exemple, également aux jeunes. Vous vous rappelez le discours du président Faure Gnassingbé dans le temps. Aujourd'hui, donc, on peut changer le terme.
L'ancien président de la République,
voilà. Aujourd'hui, devenu PC. Donc, vous voyez, il avait octroyé une fenêtre aux jeunes de pouvoir faire le prêt, pour qu'on puisse les financer. Mais nous avons vu comment cela s'est terminé. Voilà. Finalement, ça n'a pas prospéré. Parce que donner de l'argent, par exemple, donner 10 millions, 5 millions à un jeune peut-être qui a 20 ans, 21 ans, vous voyez que ce jeune-là n'a pas encore la maturité de pouvoir gérer cet argent. Donc je crois que quand vous prenez de l'argent, quand vous vous fixez un objectif du prêt que vous avez fait, il faut vous focaliser sur ça. Mais lorsque vous détournez l'objectif du prêt, après vous aurez des problèmes. Vous allez voir après, on cherche les gens, on ne les trouve pas, soit ils sont allés vers le Ghana, ils sont rentrés vers le Bénin ou bien la Côte d'Ivoire et ils disparaissent comme ça.
D'accord. Gosson, on va aborder maintenant le volet politique de cette émission. Et vous écrivez, bien sûr, hein, Liberté, le journal La Liberté, vous écrivez critiquer, bouder et isoler la 5e République de Faure Gnassingbé est mal partie. Alors, est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité?
Tu te mentirais. D'abord, en me posant cette question, tu n'en es pas convaincu. Parce que lors de ces deux cérémonies, moi, j'ai pris une lampe tempête pour chercher le visa d'un seul chef d'État venu assister aux cérémonies. Je n'en ai pas trouvé.
Issoufou était là.
Mais l'ancien président du
Niger. C'est pas les has-been. On ne parle pas des has-been. On parle de ceux qui sont aux affaires actuellement. Si tu en connais, dis-moi. Peut-être je peux me tromper. À l'aide du lampe tempête, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, finalement, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de tous ces dirigeants des 53 pays africains et du monde entier pour que aucun n'aient pris la peine de venir assister à nos cérémonies.
Mais Gosson, il faut rappeler que le même jour, il y a le général Oligui également qui faisait son investiture et pratiquement, il y a beaucoup de chefs d'État qui ont répondu présents.
Wallahi, ça, j'ignorais l'information. Justement, pour dire que... Attends, un général putiste, mais il a quoi de plus que nous et à son investiture des présidents, ils sont allés. C'est quoi notre tort, notre malheur? Le verre est dans le fruit.
D'accord. Eh bien, disais, si je m'en tiens à ce que Gosson dit, est-ce que finalement c'est parce que notre régime parlementaire n'intéressait pas les autres chefs d'État, c'est pourquoi ils ne sont pas venus?
Non, c'est très compliqué, mais d'abord il faut dire, est-ce que les chefs d'État avaient été invités à assister à la cérémonie? S'ils n'ont pas été invités, ça va être d'ailleurs une grande surprise qu'ils ne soient pas invités. Mais s'ils ont été invités et qu'ils ne sont pas là, l'analyse que Gosson est en train de faire est assez fondée et assez parlant. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que on va dire, il ne s'est plus indiqué de l'appeler chef de l'État, la Constitution dit autre chose. On va s'habituer au terme prochainement, mais c'est président du Conseil, hein. Le président du Conseil actuel du Togo, donc qui garde ces mêmes prérogatives qu'il avait quand il était chef d'État, est le doyen des chefs d'État et de gouvernement, si vous voulez, du Togo, le doyen des chefs d'État, et j'ajoute du gouvernement de l'Afrique, pas de l'Afrique, mais quand même de la sous-région ici, les gens l'ont appelé jeune doyen et tout ça.
Il faut rectifier.
De l'Afrique de l'Ouest.
Non, il n'est plus le doyen des chefs d'État.
J'ai dit doyen des chefs d'État et de gouvernement. Non. Là, actuellement, il est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement, comme le dit la Constitution.
La Constitution, depuis un certain temps, vous avez vu que la terminologie a changé. On ne parle plus du président du Conseil des ministres,
mais on parle plus alors du président du conseil tout court.
Mais président du conseil,
mais il est le chef du
conseil
du gouvernement.
Conseil de ministres qui veut dire, qui sous-entend le gouvernement, et la Constitution dit clairement qu'il est le chef du gouvernement. Donc moi, je reste dans la logique, je dis, il est le chef, le doyen des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Et donc, il est en train de faire son investiture. Il a été quand même un peu curieux de constater qu'il n'y ait pas eu, ne serait-ce qu'un autre chef d'État ou un autre chef de gouvernement qui représentait tel pays pour participer à la cérémonie. Ça a été un constat. Les gens nous ont posé la question, des citoyens lambda, pour savoir. Mais on n'avait pas les réponses parce que j'avais déjà dit ici la dernière fois qu'il fallait qu'on nous dise si les gens avaient été invités et ils n'ont pas été là. Mais ça va être une surprise pour moi de... qu'on dise que M. Issifou était venu de lui-même. Ça veut dire que lui, il a été invité. Donc, ça veut dire que si lui, il était venu, d'autres également avaient été invités, mais ne sont pas là. Nous avons peut-être dit que c'est la coïncidence des choses, parce qu'il y a une autre investiture un peu loin de chez nous ici. Les gens ne peuvent pas avoir le don de d'ubiquité, donc ils étaient tous à Libreville. Donc, on met ça sur le crédit de cela. Donc, supposons que les gens étaient à Libreville, ils ne pouvaient pas être en même temps à Lomé, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. Et que pour des rencontres prochaines, on aura certainement l'occasion d'avoir des gens, peut-être quoi, pourquoi pas, pour le deuxième mandat, on aura des gens qui seront là pour assister à l'investiture.
Mais Jacques, est-ce que c'est la présence alors des chefs d'État qui va légitimer même d'ailleurs cette cérémonie, ou qui va crédibiliser, j'allais dire, cette cérémonie?
Non, je crois que avec ce qui s'est passé la fois par rapport à l'investiture, c'est une régulation en fait. Le PCA n'a fait que réguler, c'est-à-dire son mariage. Tout le monde savait qu'il était marié, mais bon, il n'avait pas encore régularisé son mariage devant la Cour constitutionnelle. Finalement, il a régularisé ce mariage, c'est-à-dire il quitte maintenant du célibat vers le mariage, quoi. Donc au fait c'est ça. Donc si les gens ne sont pas venus à ce mariage, les gens savaient déjà qu'il est marié, Donc ça, c'est une régularisation qu'il a eu à faire. Donc les gens se diront, mais bon, on sait que tu es déjà marié, tu veux régulariser ton mariage, ça, il n'y a pas souci de se déranger pour encore aller assister.
Il n'y a pas de surprise, c'est ça?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que, bon, Pascal, là où tu es, tu savais que M. Fornia Singbe était déjà désigné comme président du conseil. Ça, M. Bawara l'avait déjà annoncé depuis, donc on le savait.
Mais déjà, là, donc, il y a la constitution également qui l'a précisé.
Oui, donc, c'est ce que j'ai dit. Nous tous, on savait. C'est pourquoi j'utilisais cette figure pour dire c'est quelqu'un qui était déjà marié, mais légalement, il n'était pas encore marié. Finalement, il a régularisé son mariage devant la Cour constitutionnelle. S'il faut que les convives viennent, par exemple, à ce mariage, peut-être que ça devait être une sélection. C'est cette sélection qui a été faite. On a voulu peut-être que certains membres du gouvernement viennent et qu'un ami vienne quelque part, soit témoin, par exemple, de ce mariage. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Si on a vu M. Mamadou Issifou à ce mariage, peut-être que c'est un témoin du mariage. Il est venu, il a assisté. Donc, pour que les autres chefs d'État viennent assister à ce mariage, je crois que, comme je l'ai dit, les chefs d'État savaient déjà qu'il y avait eu ce mariage. Et les chefs d'État savaient que ça ne devait être qu'une régularisation de ce mariage, donc peine ne pas
venir. Mais Jacques, c'est quand le débat se pose,
ce que Jacques dit là,
oui, la métaphore c'est terrible. L'histoire, Jacques, quand les chefs d'État justement font leur investiture, ou bien il y a l'investiture alors des chefs d'État, et souvent c'est vrai, on se pose toujours la question de savoir qui sont les chefs d'État qui sont invités, ces pairs qui sont invités, et là vraiment le regard se tourne justement vers ces chefs d'État invités, et des fois ça crédibilise ou même d'ailleurs ça légitime aussi la cérémonie. Je ne sais pas si c'est dans ce sens que le débat se fait plus maintenant sur se fait plus dans l'opinion.
Non, c'est ce que j'ai dit, Pascal. C'est vrai que l'opinion, vous savez, par exemple, quand je prenais tout à l'heure la figure d'un mariage, on sait que le mariage, c'est quoi? C'est-à-dire que les témoins, ça peut être ton papa ou bien ça peut être, tu peux peut-être prendre quelqu'un d'autre pour assister, être ton témoin à ton mariage. Comme je l'ai dit, nous tous, je ne vois pas que les Togolais ne savaient pas que M. Fornia Singbe devait être le président du conseil des ministres, comme je disais tout à l'heure, selon ce que la Constitution a dit. Mais depuis un certain temps, on a vu que on ne parle plus du conseil des ministres, mais on parle plutôt du président du conseil. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que on savait que c'était ça. On savait. Donc, maintenant, on a voulu seulement que régulariser la situation, qu'un président étranger ou bien que quelqu'un d'autre vienne, Pascal, on savait que ça devait être comme ça.
D'accord.
Donc, je crois que c'est la mairie, je dis la mairie, la Cour constitutionnelle a régularisé le mariage. Le mariage a été célébré. Bon, que les convives viennent ou pas, quand même, il y a eu un témoin qui a vu et qui a su que c'est comme ça.
D'accord, mais Didier ne pense pas la même chose. Didier.
Non, mais je dis, partant de l'exemple que donne Jacques et la figure de style qu'il est en train d'utiliser, ça veut dire qu'il veut dire que les chefs d'État étrangers qui auraient été invités, j'utilise le conditionnel, à cette cérémonie savaient déjà qu'il n'y avait pas de changement. Et que les choses étaient dans leur ordre normal et qu'il ne fallait pas se gêner. Moi, je crois qu'en fait, il faut sortir de ce débat parce que les chefs d'État étrangers viennent ou pas, ce qui a été fait a été fait. Et le Togo se retrouve aujourd'hui dans une 5e République. D'aucuns ont dit avec ces petits couacs, mais qu'il ne faut pas considérer. D'accord, on ne considère pas. Espérons que, espérons que les prochaines fois, quand M. Fornia Singbe serait désigné et serait encore investi président du Conseil, que des chefs d'État étrangers auront le temps de pouvoir assister à la cérémonie et qu'il n'y aurait pas d'autres investitures le jour-là pour que ce débat n'ait pas lieu. Parce que, au fond, comme tu le dis, est-ce que leur présence va légitimer? Est-ce que leur participation va donner un quitus à ce qui a été fait? De toute façon, les gens vont te répondre à cette question de ce que le Togo est souverain. Que des gens viennent ou pas, que les gens ne viennent pas, l'État togolais reste souverain. Est-ce que ce qui a été fait a été fait? De toute façon, il n'y a pas une institution quelque part auprès de laquelle on pourrait faire recours pour annuler l'investiture du président du Conseil et l'élection qui a été faite du président de la République. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que oui, on peut faire des analyses sur ce sujet-là, mais de toute façon, ça nous amène toujours à regarder dans le rétroviseur plutôt que de voir en avant pour voir ce qui peut être fait pour que le Togo se porte mieux, pour que les Togolais mangent à leur faim, pour que voilà, les services publics soient disponibles pour tous les Togolais, que les services de première nécessité tels que l'eau et tout se retrouvent dans nos localités, nos hameaux, et que le réseau électrique soit étendu à tous les Togolais, enfin qu'il n'y ait pas de Togolais et des Togolais en fait. Qu'il n'y ait pas de Togolais entièrement à part, c'est ça on a dit. Mmh. Entièrement à part et des Togolais à part entière. Donc qu'il y ait des Togolais en tant que Togolais. Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si la 5e République est conçue pour nous apporter ce bonheur que les Togolais attendent tant, Jacques avait dit en début d'émission qu'il n'y avait pas déjà de l'argent dans le pays, mais qu'il a constaté que beaucoup de personnes tombent malades au Togo aujourd'hui. Bah, si voilà, la 5e République peut nous permettre de résoudre ces problèmes basiques des Togolais, les problèmes basiques de tous les jours, la disponibilité des hôpitaux équipés, des hôpitaux de haute qualité, de haute facture, disponibilité des soins de qualité. On pourra aller un peu loin par rapport à ce qu'on propose dans le cadre de l'assurance maladie universelle qui n'est toujours pas universelle. On pourra aller un peu plus loin pour permettre aux Togolais d'avoir les soins de santé de qualité, manger à leur faim, voilà, les besoins basiques puissent être résolus pour les Togolais. Moi je pense que c'est à ça qu'il faut se concentrer maintenant, être focalisé sur ce que cela devrait nous apporter. Et si on n'a pas la chance d'avoir les réponses à tout ce dont je viens de parler maintenant, qu'on ait la possibilité de pouvoir interpeller les autorités, le président du Conseil, voilà, parce que ce sera lui qui devrait être notre interlocuteur de tous les jours, puisque il n'y a plus de premier ministre. Il pourra avoir des ministres d'État, mais voilà, notre interlocuteur direct du peuple aujourd'hui, ça va être le président du Conseil.
D'accord.
Et un peu loin, le président de la République.
Merci.
On n'aura pas eu gagné.
Merci Didier. Alors, je voudrais qu'on quitte le sujet. On va s'intéresser à un autre sujet. On s'intéresse au rôle alors de médiateur que le Togo joue dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Il y a le journal Togo Matin qui écrit ce matin: RDC, Rwanda, le Qatar et le Togo travaillent en étroite collaboration. Gosson, est-ce que vous êtes en train de percevoir le rôle que le Togo joue dans cette médiation?
Non. Du moment que il y a eu un communiqué issu de la rencontre de Qatar, selon lequel les deux pays ont convenu d'aller vers la paix, c'était sous l'égide des États-Unis et d'autres puissances. Parce que, on l'a dit et répété, ce qui se joue dans les Grands Lacs, ce n'est pas une affaire de fourmis, mais d'éléphants. Et si on en est arrivé à produire ce communiqué, ce n'est pas nous qui viendrons renforcer ou tiédir ou affaiblir quoi que ce soit. Tout se passe loin de nos regards. Ça, c'est ce que nous estimons écrit en interne. Mais à l'international, il faut aller pour comprendre que ce qui se joue là-bas, c'est dans d'autres sphères. Ça, c'est ma conviction.
C'est votre conviction.
Bien sûr.
Jacques, est-ce que vous avez aussi cette conviction que le Togo joue en quelque sorte un rôle de figuration?
Non, vous savez, je ne peux pas parler d'un rôle de figuration du moment où nous avons vu quand même des émissaires. La semaine passée, ici à Lomé, on a vu un émissaire du Qatar. On a également vu le message envoyé par Donald Trump par rapport à cette médiation. Mais vous savez, Pascal, que ce soit par exemple le Togo, le Qatar ou bien j'ai appris également que la France est en train de rentrer dans la danse, parce que la semaine passée, le président rwandais Paul Kagame était en France et lui et Macron, ils ont également évoqué ce sujet. Et bon, Pascal, on ne peut pas dire que on peut mettre la médiation du Togo en stand-by, mais ce que nous constatons, c'est que il y a quand même une convergence entre les belligérants, quand vous prenez aujourd'hui le M23, vous prenez aujourd'hui le gouvernement également au niveau du Congo, on sent quand même qu'il y a aujourd'hui une convergence de vues sur cette situation pour pouvoir la régler, parce que depuis un certain temps, on ne parle plus, je ne sais pas si vous avez fait également cette remarque, on ne parle plus de guerre, mais on parle plutôt de minerais. C'est-à-dire qu'on sent que cette guerre-là, c'est une guerre de minerais. C'est-à-dire que on accuse le Rwanda, on accuse également les autres pays voisins de pouvoir piller le Congo. Et aujourd'hui, vous voyez également la situation des Américains qui veulent également investir là-bas. Donc c'est pour vous dire, c'est une guerre de minerais. Donc les puissances sont en train de faire leurs calculs pour voir comment chacun peut trouver sa part. Et puis bon, je crois que le problème sera réglé. Parce que Pascal, je ne vois pas quel est ce conflit qu'on confie à une personne et d'autres s'y mêlent encore et ça tire d'un peu partout par rapport à cette médiation. Vous sentez effectivement qu'il y a vraiment un gros poisson qu'est le Congo, où les gens ne veulent pas du tout laisser. Donc le jour où les puissances là vont s'entendre par rapport au partage de ce gâteau ou de ce poisson, vous allez voir que la guerre va cesser. Depuis un certain temps, le constat également fait que les armes quand même se sont tues, parce que les discussions de couloir ont commencé par rapport à ce partage de cette richesse. Et je crois que le jour où ils vont s'entendre, ça sera également la fin de la guerre.
D'accord. C'est vrai que quand on parle de guerre de minerais, ça veut dire que c'est une guerre d'intérêts. Et c'est les grandes puissances qui sont là pour discuter même d'ailleurs de leurs intérêts. Et finalement, quelle sera vraiment la part du Togo dans toute cette guerre de minerais?
Ben, peut-être que des minerais aussi. Pourquoi pas? Mais en vrai, pour faire plus sincère, je vous avais déjà dit dans ce studio ici que pour réussir la médiation qui a été confiée au Togo, la diplomatie togolaise devrait faire le tour du monde. J'avais déjà dit ça dans ce studio ici. Devrait faire le tour du monde. Et vous allez observer avec moi que c'est évidemment ce qui est en train de se passer actuellement. Il faut que Togo aille discuter avec le Qatar pour voir comment est-ce que le Qatar est arrivé à obtenir ce cessez-le-feu, la déclaration de cessez-le-feu. Il faut que le Togo prenne langue avec la diplomatie française pour voir comment est-ce que la France a tout fait pour s'infiltrer dans cette affaire-là. Et que les États-Unis également, qui avaient déjà dit, et Donald Trump l'avait déjà dit, ils ont même essayé de faire ce deal avec l'Ukraine.
L'Ukraine?
Oui. Les États-Unis sont à la recherche des terres rares. Et il se trouve qu'en RDC, il y a des terres rares. Et donc, les États-Unis veulent avoir des terres rares là-bas. Donc, s'il faut faire la pression sur le Rwanda, le protéger de toujours, faire la pression sur les rebelles, avec à leur tête Nanga et son parrain, paraît-il, oui. Joseph Kabila, il faut faire la pression sur tout ce beau monde là connu pour que les armes se taisent un peu, pour que les États-Unis puissent avoir les terres rares du Congo.
Ça part du gâteau.
Évidemment, je pense que vous allez voir que les intérêts des grandes nations priment sur les amitiés et toute autre chose. Et donc aujourd'hui, le Togo se trouve en train de porter la voix se trouve aujourd'hui à la place de l'Union africaine voilà, ce méli-mélo-là, cette reconfiguration en cours au niveau de l'Est de la RDC et tout le mal que nous pourrons souhaiter à nos dirigeants, c'est qu'ils puissent être écoutés et qu'on leur fasse un peu l'honneur, comme on en prend ici et là, que les belligérants puissent se déférer prochainement à Lomé pour qu'ils soient écoutés, pour s'entendre sur quelque chose qui existe déjà, ma foi, pour que quelque chose soit signé symboliquement à Lomé pour faire honneur au Togo et à la diplomatie togolaise. Et l'histoire retiendra que le Togo, on a confié une médiation au Togo, le Togo a essayé de jouer le rôle et a été aidé par d'autres puissances telles que les États-Unis, parce que si le Togo fait autre chose par rapport aux intérêts des États-Unis, les États-Unis n'allaient pas adoubler la médiation togolaise.
Mais est-ce que ça veut dire que la médiation togolaise n'est pas libre ou indépendante?
Non, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? La médiation togolaise ne pourrait pas être libre dans ce dossier.
Ce
n'est pas un aveu de faiblesse. Voilà. Non. C'est être réaliste sur ce coup-là. si la médiation togolaise devrait aboutir, elle ne devrait pas être libre. Parce qu'elle devrait d'abord prendre langue avec toutes les puissances qui interviennent là, tenir compte des intérêts des uns et des autres, et essayer d'arbitrer justement à la fin pour qu'on puisse avoir une déclaration ou un accord, si vous voulez, un accord de Lomé, je le souhaiterais bien, pour que la paix revienne à l'est de la RDC, parce que tout le monde aura trouvé pour son compte. D'accord. Donc, sans cela, le Togo aura tout fait, mais il n'y aura jamais de réussite. Donc, vaut mieux être réaliste sur le sujet-là pour que nos frères et sœurs africains qui vivent dans l'est de la RDC puissent avoir la paix finalement, parce que les armes se seraient tues.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Nous allons, il est midi, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. Nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 115, et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous écrire. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Je salue tous les confrères qui sont au studio avec vous.
D'accord.
Bon, et ce qui s'est passé le samedi dernier, c'est un événement. Ça, on ne peut pas s'en passer, c'est un événement. Pourquoi inviter les chefs d'État pour encore un gaspillage de données publiques? Eux, ils vont préparer à manger. Comment on ferait l'économie de tout ça là? C'est un événement. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Parce que tout a été fait sans le peuple. Et pour ce qui concerne ce qui se passe à Lomé, quand on s'endette, il faut la retomber. S'il n'y a pas de retombée, est-ce que c'est la peine? C'est souvent les pays africains qui s'endettent et puis. Et à coup de milliards, on ne sait pas dans le panier de la ménagère. Il y a problème, des impunités, des détournements. Il y a des gens qui attendent que les projets comme ça tombent du ciel pour que ça réussisse. C'est tout ça là pour les Africains, là, surtout les pays africains. On s'endette, il n'y a pas de retombée. Donc ce n'est pas la peine. On a des ressources.
D'accord, merci Sylvain pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui,
allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Oui, votre nom c'est?
Ah, ouais, bon, j'aime pas de retour, là, je salue tout le plateau. Bon, merci pour l'émission. Je voudrais dire quelque chose, monsieur Pascal.
Et allez-y.
Avec vos confrères qui sont sur le plateau là-bas, je vous dis à tout. Bon, aujourd'hui, Senghor a 60 ans, 70 ans. Et j'ai agi comme un enfant de 25 ou 30 ans. Vous ne voyez pas que vraiment c'est grave pour moi. Quelqu'un qui a 80 ans, 70 ans, 100 ans, et il agit comme un enfant de 30 ans, c'est comme c'est grave. Pourquoi je le dis, mes frères?
Oui,
frères, nous sommes tous les Togolais, ce qui se passe aujourd'hui interpelle tout le monde. Aucune région n'est épargnée, M. Pascal. Et la seule chose que nous devons savoir le faire, et ça c'est mieux, la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu et tout ce que nous allons poser comme des actes, posons-nous la question. Nos consciences nous parlent. Ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Ça va arranger quelqu'un? Vous savez, la voix de Dieu, la voix du peuple, la voix de Dieu. Vous voyez, non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et vous savez, c'est un adage que je viens de donner en cadet chez nous, on appelle ça Edouye. Edouye, en français, c'est un dito. Quelqu'un qui a 80 ans, et il agit comme un enfant de 30 ans. Qu'est-ce que c'est bon? Je m'arrête ici, que Dieu bénisse le Togo, et que Dieu vous bénisse également.
Mais merci, Amen, et merci, Évangéliste Senghor, pour votre intervention, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, en effet, pour répéter ce que le président essaie de me dire, je vais demander à notre président de la République qui s'assied avant de se boucher, d'où on le lave, à quel moment il ira au service. Bon, c'est pour aller dormir ou bien aller travailler. Vous voyez comment vous vous amusez avec le dessin des prisonniers. Je suis content de finir à la maison. On lui donne encore ce travail. Il n'y a pas les... On vous avait proposé, genre, pour tout ça, là. Mais ils sont là, dynamiques, pour travailler. Même si on veut rentrer dans la 5e République, rentrons de plein pied aussi dans la 5e République. Mais quelle sont cette histoire-là? Mais je ne le connaissais pas, la dernière fois, j'ai vu, vraiment, c'est ridicule. Pourquoi ça me semble que les dessins sont venus comme ça? Donc, par rapport à ce que vous avez cité comme dette, bon, il n'y a pas d'air, nous a tout détaillé. Et on sait que, avec fort à la tête et ce qui s'ensuit, nous allons plus cher.
D'accord, merci Monsieur Nyamavo pour votre intervention. Bonjour Canal FM, merci Gosson pour la remarque. Le thème est vraiment mal choisi. Normalement, le thème devrait être stop au détournement des fonds publics et à la corruption. S'il faut parler des dettes, la Côte d'Ivoire et le Bénin s'endettent, mais on voit les réalisations. Mais qu'en est-il alors de mon pays? L'endettement n'est pas le problème, mais où est l'argent? C'est le souci. Les fonctionnaires d'État qui sont aussi riches que les hommes d'affaires. C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
S'il vous plaît, votre...
Comment vous allez?
Oui, ça va. Votre radio à côté de vous.
Ah, on remercie le plateau.
Votre nom, c'est...
Mais surtout, moi, je suis en train de... vos confrères. Maintenant, on n'était pas d'accord pour... la nouvelle constitution. Moi, je ne sais pas pourquoi on va parler encore si on a invité les chefs d'État ou pas. C'est Célestin de la Constitution.
Ah, Célestin de
la Constitution. Non, frère, qui parle. Bah, quand moi, me trouve certains frères, c'est compliqué. Il y a d'abord à ce moment-là pour voir la chaleur. La chaleur, les bêtes, mais tout le monde va se trouver au monde. Mais on est là, ça fait 20 ans. Il n'y a pas l'eau. Dans certains quartiers, donc vraiment, franchement, quand j'écoute mes frères parler, au lieu de voir la situation, je ne sais pas si c'est les prophéties qu'on étudie, les exercices qu'on étudie, là, qui fait ça, il y a trop de chaleur. Et je n'arrive pas à dormir, c'est intéressant. Bonne émission. Merci.
Merci beaucoup, Célestine, pour votre intervention. Allô? Allô? Il est parti. 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Bozambo.
Ah, Bozambo.
Oui.
Oui, j'espère que vous allez.
Les autorités, effectivement, écoutent les médias que en tant que personne ne suite et on bouge. Tout le monde appelle. Nous avons la bande de la famille n'a plus de l'air. Les Togolais souffrent. Nous souffrons trop. Et les étrangers aussi nous piétinent. Donc, il faut qu'un noir vienne dans ce pays dise que. Pourquoi les Togolais d'abord? Comme les Gabonais disent les Gabonais d'abord, les Ghanéens d'abord, pourquoi pas les Togolais d'abord? Il faut nous sauver là, les journalistes. J'avais dit quelque chose qui se passe à Gbatopé. Jusqu'à présent, aucun journaliste n'a pas été. Quoi même
Bozambo.
Oui?
Oh, mais vous nous avez écouté?
Pardon?
Est-ce que vous nous avez écouté? Vous avez écouté l'émission?
Oui.
Oui, mais nous vous avons donné la parole pour que vous vous exprimiez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse.
Oui, on vous a donné. Donc, là où nous sommes, c'est là qu'on va parler.
D'accord, mais ce qui est sûr, notre émission est bien sûr méthodique et nous parlons alors des sujets de l'actualité. Et là, nous vous demandons également de vous exprimer là-dessus. D'accord. Merci, Bozambo, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô. Allô, madame ici, bonjour.
Bonjour. Voilà. Bon. Même débat, non? Parce que.
Oui, oui.
Nous avons parlé de la 5e République.
Si, nous en avons parlé.
Nous avons parlé. C'est obligé, tout ça. Voilà. Et tout ce que le président nous fait ça, moi, je veux lui envoyer un message là. Pourquoi il fait ça? Il n'est pas fatigué de revenir sur nous. je vais bien envoyer ce message-là. Il n'est pas fatigué de régner 60 ans, hein, de régner dans une république. C'est bon, quoi. Et maintenant, il veut aller au-delà de ce mandat. 20 ans qu'il a fait, lui seul. Il fait bon, il n'a qu'à reprocher. Il veut une formule pour passer la main, quoi. Voilà. Hein? Pourquoi on est venu? Le pays est bloqué. Pourquoi on est venu? Voilà.
D'accord, c'est compris, madame. Merci pour votre intervention. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, Pélé, bonjour.
Oui, salut.
Oui, allez-y.
Non, je voudrais parler de 3 mains, deux personnes de serment. Un d'abord, un autre. Et la question de ce volet, pourquoi il n'y a pas de résultat? Le président. Il y a 16 présidents au Gabon. Tout ce que même, s'il n'y avait pas pour la sociétamment ou pour lui, vous allez voir comment il a tiré de l'autre côté. Mais, je ne sais pas s'il y a un problème à ce qui concerne la création du serment au Togo. Je ne sais pas combien de création du serment, je pense que ça fait que la cinquième fois, le thème de la création du serment, et s'il faut compter le nombre de présidents, et qui sont venus au Togo. Je ne sais pas s'il y a un problème à ce côté. C'est la question, moi, c'est ma question, parce que je ne sais pas si M. Jacques Jacques peut déconstituer un peu. Est-ce qu'il y a un petit problème à ce niveau? S'il faut voir les 3 mois de l'année, quel est le président? Je pense que le président, quand le président est né, et ça, l'autre là, c'est le Benjamin. C'est le Benjamin qui est arrivé, mais qui travaille bien. Mais est-ce que tout ce qui est le problème, il n'y a pas de visibilité. Je pense que ce matin, on a appris que le président Danin est là. Et la fois dernière, il a survolé notre territoire pour aller là-bas. Pourquoi? Merci.
Merci Pélé pour votre intervention. Bonjour les amis. Écoutez, j'aimerais dire à mon frère Diakouti que ce qui s'est passé, ce n'est pas affaire de mariage. Il faut reconnaître que ce qui se passe au Togo, aucun président de la sous-région en fonction ne peut pas cautionner. Et ce qui s'est passé le samedi dernier, la démocratie est une valeur universelle. Celui qui la détruit doit être dénoncé. Je t'aime bien, mon frère Diakouti. Bonne émission, c'est Monsieur Nyamaku. 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Vous dites?
Comment vous allez?
Ça ne va pas.
Votre nom, c'est?
C'est Komi.
C'est l'abonné. Komi l'abonné. Allez-y, Komi.
Je salue ça. Partout où il est. C'est une pensée que je lui. Par rapport à l'émission, moi, j'aimerais savoir par rapport à la tête, qu'est-ce qu'on a mis en garantie? Parce que moi, en tant que être, je suis déjà vendu pour. Pouvoir payer cette dette-là, même si je suis vieux. Je n'ai pas encore 40 ans, pour pouvoir cocher les choses. Parce que vous prenez une dette, il faudrait qu'on sache à quoi cette dette a servi. Et il y a détournement d'objectifs de la dette, c'est puni aussi par la loi. On ne peut pas se permettre d'emprunter. Et ne pas voir les réalisations comparées aux autres pays qui nous entourent. Si par moment même refusent d'emprunter et d'utiliser leurs ressources naturelles pour pouvoir faire face à leurs besoins. Je ne comprends pas notre gouvernement. Et pour la question de la 5e croix république, là, chez moi, c'est mon événement. Parce que un fait social ou bien un pacte que nous Togolais devons signer, c'est le droit au vote à l'universel, au suffrage universel. Donc quand quelqu'un se permet à lui seul ou bien à lui et ses compagnons d'aller supprimer ce droit de vote à l'universel, vous pouvez faire 5 ans dans votre système de public. Hein.
D'accord, mais merci beaucoup, Komi, l'abonné. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre nom, c'est monsieur Agbovon.
Agbovon.
Oui.
Allez. Bonjour, mon frère Diakouti et son confrère. Moi, ce qui m'intrigue, c'est quand on parle de la dette, de notre République. Qu'est-ce qu'on a fait exactement avant d'être endetté? Je ne vois rien. C'est parce que les gens se sont cachés de l'argent ou bien on a fait quelque chose concrètement. On peut nous jeter. On nous a promis de faire l'autoroute de l'Omé jusqu'à Saint-Café. On n'a rien vu. Et comment l'a fait l'autre là qu'on a jugé en France là? Ce signe là, comme là.
Qui
qu'est-ce qu'on a fait exactement? Montrez-nous la chose. On ne veut pas qu'on enferme quelqu'un ou bien qu'on ne l'enferme pas. Il faut gouverner le pays avec une franche transparence. C'est fini. Moi, bon, où je suis, je ne veux pas aller où Fort Nassingué se trouve actuellement. Je ne le veux pas. Qu'il soit là-bas, qu'il fasse à ce que moi aussi je mange à la maison. Il ne va pas venir me donner à la maison manger, mais de me favoriser, de trouver quelque chose à manger. Moi aussi, c'est fini.
D'accord.
Merci. Bonne émission.
Merci beaucoup, monsieur Agbovon, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Selon ce que dit Jacques, puisqu'il parle du mariage, donc, dans son église, si on présente les fiancés à l'église, du coup, les gens ne doivent pas venir le jour du mariage, soi-disant qu'ils connaissent déjà les mariés. Si cela est ainsi, pourquoi le régime avait mis en place le transport, export pour faire déter les gens? Jacques nous a toujours caché la vérité avec ses multiples métaphores. C'est aussi d'Agouin. Je pense que nous avons encore une dernière réaction rapidement avant de donner la parole à nos confrères en studio pour faire un dernier tour de table. Bonjour Pascal et bonjour le plateau. Un adage dit gros bois mille ans dans l'eau ne se transforme jamais en crocodile. Nos dirigeants ont atteint leur apogée et qu'ils fassent preuve d'honnêteté et s'éclipser. Trop c'est trop, Dieu veille sur notre pays. C'est Kokou depuis Adido Gomé. Chers confrères, vous avez écouter les uns les autres se prononcer sur l'actualité. Jacques, je vous vois sourire. Je sais le message qui vous fait sourire. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à Kossi Dagoué?
T'as pas raté.
Pascal, oui. Merci pour le débat aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire?
Qui est l'époux et qui est l'épouse?
Non, je crois que Didier est mieux placé, comme il est pasteur, à répondre à cette question. D'accord. Bon, vous savez, par rapport à ce qui a été dit, moi, je le dis souvent, Pascal, vous savez, il y a des situations, c'est vrai, difficiles, mais je le dis toujours, il y a certains qui ne sont pas souvent d'accord avec moi, mais Pascal, dans chaque bataille, dans chaque lutte, il y a toujours une finalité, il y a toujours une fin, et il y a toujours également une lueur d'espoir quelque part. Parce qu'il faut considérer que la plupart des murs qui se présentent devant nous, il y a toujours des portes de sortie. Donc je crois qu'il faut avoir toujours cet espoir que devant chaque mur qui se dresserait devant nous, il y a toujours des portes que nous pourrons franchir pour s'en sortir. Donc je ne peux pas dire aux Togolais de perdre espoir, mais toujours il faut quand même garder l'espoir par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que les gens ont parlé de l'eau, ils ont parlé de l'électricité, ils ont parlé des routes. Parce que c'est le quotidien de ce que nous disons ici tout le temps. Donc je crois que avec le nouveau régime, comme Didier n'aime pas qu'on dise que ce n'est pas la constitution qui va changer quelque chose, mais il faudrait que les hommes qu'on va mettre, que ces hommes-là se mettent vraiment au travail pour aider la population. D'accord. Je voudrais terminer mes propos en encourageant le gouverneur de Savane. Il a commencé un travail dont on avait toujours évoqué ici dans ce studio par rapport à ces boissons frelatées que nos frères consomment là-bas, que ça leur crée des problèmes parce que c'est de l'alcool vrai, Pascal. C'est de l'alcool vrai que les gens utilisent, l'alcool qu'on utilise dans les hôpitaux, que les gens diluent un peu et qu'ils vendent aux populations au nord. Et quand vous voyez nos compatriotes, nos frères, vous voyez les traits des gens. C'est-à-dire un jeune de 12 ans, 20 ans, mais quand vous le voyez, vous allez croire que c'est un vieux de 72 ans. Alors que c'est cet alcool frélaté et qu'ils utilisent et que cela crée vraiment des problèmes. Donc, chapeau au gouverneur, M. Atagidi, qui finalement qui a écouté notre cri de cœur, effectivement, qui a pris les taureaux par les cornes et qui est en train de faire un travail extraordinaire là-bas par rapport à ces boissons frelatées.
D'accord, merci Jacques. Oui, disais.
Non, mais je pense que les Togolais, les compatriotes qui nous ont écoutés sont revenus encore. Certains ont parlé de la dette et certains ont évoqué encore cette question de la Ve République. Vous savez, comme nous l'avons dit au sujet de la dette, par exemple, s'endetter n'est pas le problème, mais ce que nous faisons de la dette reste le point crucial. Les gens ont donné les exemples de la Côte d'Ivoire, des exemples du Bénin ici. Voilà, je souhaiterais que dans les années à venir, qu'on puisse, parlant d'autres pays également, donner l'exemple de mon pays, le Togo, de ce que la dette a permis de changer beaucoup de choses, de développer le pays. Et c'est ce à quoi nous espérons pour notre pays. De toute façon, espérons justement que les gens vont partir des conclusions de la conférence de Lomé pour mieux gérer la dette et le service de la dette. Parce que pour les États, quand on parle de la dette, il y a le service de la dette aussi. Mais pour la Ve République, comme j'ai dit, ce qui a été fait a été fait. Je ne dis pas de passer pas par perte au profit, loin de là. Mais les marches des États, c'est une très longue marche. Et espérons que dans notre cheminement avec cette Ve République, le Togolais trouvera son compte. Et nos frères de Dapao, qui n'ont pas d'eau actuellement, quelqu'un a appelé pour dire ça, pourront trouver de l'eau dans les engagements des uns et des autres. D'accord. C'est ce qui compte et le reste pourra se corriger. D'accord. Avec le temps lui-même.
Merci, Didier. Oui, Gosson.
Oui, pour ce qui est de la dette, je vais même au-delà pour parler de l'exécution du budget. Il serait temps que ceux qui veulent toujours rester au pouvoir initient l'obligation pour chaque ministère, chaque département, de rendre des comptes en fin d'année, à défaut de faire l'état de la nation, que chaque ministère passe pour rendre des comptes. Parlant de la République neuve, je veux dire que ce n'est pas avec une République qu'on se développe. Et au risque de déplaire au ministre Adjourovi Pakoum, ce n'est pas avec la paix et la stabilité qu'on ira vers le développement. Ce n'est pas vrai. Parce que ailleurs, les canons résonnent. Mais ces pays-là ne sont pas pour autant sous-développés. Donc, qu'on ne fasse pas l'amalgame et qu'on ne fasse pas avaler n'importe quoi. D'accord. Aux populations.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Ketomanyan, journaliste au journal, au tri-hebdomadaire, j'allais dire, Liberté. Merci d'être passé dans cette émission. Didier Assogba, directeur de publication du journal Togo Breaking News, merci d'être passé dans cette émission. Jacques Dakouti, merci d'être passé dans cette émission, analyste politique, journaliste aussi. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Je voudrais terminer cette émission par ce message, surtout notre technicien du zoo, il y a Michel Kokou Vitogbe Tomega qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi et Michel Tomega, et merci d'avoir conduit cette émission. Alors merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez également appelé pour cette émission. Merci à vous, merci à Jérôme Dakouta qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou, je vous retrouve demain, au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.